Le quart d'heure de l'INO, une émission en partenariat avec Habitéo sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le quart d'heure de l'INO, une émission proposée par la French PropTech et je suis ravi d'animer avec Jeanne Massa. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
La CEO et cofondatrice d'Habitéo, bienvenue. Alors on va parler ce mois-ci d'un sujet qui est sur toutes les lèvres, la réversibilité et l'évolutivité. Eh bien, figurez-vous que ce n'est plus une option. On a beaucoup parlé très récemment dans un grand salon international, professionnel, OMIPIM, de la ville durable, un concept largement développé aujourd'hui, qui plus est face aux crises sanitaires et climatiques auxquelles nous faisons face. Mais pour être durable, eh bien, cette ville, elle doit être évolutive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout dans un contexte de raréfaction tant des matériaux que du foncier. Le défi est donc immense. Dans les zones tendues en particulier, l'Île-de-France, on mise par exemple sur la conversion, pas toujours évidente, des bureaux en logements. Alors, comment les acteurs de l'immobilier anticipent-ils concrètement et maintenant ces changements futurs? Comment se servent-ils du digital dans cette évolution? Quels sont les premiers résultats sur les différents projets? Pour en parler avec nous, une experte, on accueille Béatrice Dessin. Bonjour Béatrice.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes directrice générale ensemblier urbain chez Quartus. Voilà, et avec vous, on va découvrir effectivement ce que fait Quartus sur ce sujet de la réversibilité. Tout de suite, c'est le quart d'heure de l'INO.
Le quart d'heure de l'INO sur Radio Immo.
Béatrice Dessin, on démarre donc avec vous. On resitue ce que fait Quartus?
Oui, en effet. Alors Quartus est un acteur de la fabrique urbaine qui est un groupe agile de 250 personnes qui est implanté sur les 7 grands territoires français d'allant de Lille à Marseille en passant par le Grand Paris et les autres grandes métropoles et qui regroupe les principaux métiers de la promotion immobilière en développant différentes offres de résidentiel en passant par la logistique urbaine, le bureau, dans le but de développer des projets mixtes qui contribuent à la fabrique urbaine que vous évoquiez, durable, solidaire et puis surtout résiliente.
La fabrique urbaine. Un des grands enjeux justement de Quartus, c'est cet axe de la réversibilité de la construction neuve. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
Oui, alors en effet, chez Quartus, on parle d'ailleurs d'immeubles neutres comme un de nos axes pionniers et de travail, d'innovation. En tout cas, on essaie d'être avant-gardiste sur la question. Beaucoup de nos confrères y travaillent également, mais face à une conjoncture de pénurie de logements, de vacances dans le tertiaire, soit liées à l'obsolescence d'ailleurs du parc tertiaire, mais aussi aux nouvelles pratiques de travail, dont le télétravail, auxquelles s'ajoute l'urgence climatique et également la crise sanitaire. On se doit de travailler la résilience de notre production et d'essayer d'anticiper ce travail sur la ville durable et puis l'empreinte carbone de la production immobilière. Et c'est vrai qu'on en fait un axe de travail fort, à la fois sur la construction neuve, à la fois sur la construction résidentielle, parce qu'on pourra revenir peut-être même à des questions de terminologie, et puis sur la transformation dont vous parliez, d'actifs existants, de bureaux en logement ou autres, selon les différents marchés, les différents secteurs.
Ouais, Jeanne Massa, j'aurais votre regard justement sur cette idée de réversibilité. C'est pas que c'est nouveau, mais on a l'impression que ça accélère, qu'on est obligé aujourd'hui, on parle beaucoup de construire la ville sur la ville, donc d'utiliser au maximum l'existant finalement, au lieu de construire toujours et encore.
Mais Béatrice a totalement raison. Aujourd'hui, c'est aussi la résilience. C'est comment est-ce qu'on emmène les bâtiments beaucoup plus loin pour que dans l'usage, on puisse s'adapter aux différentes évolution sociétale. On a vécu un important mouvement avec une forme de télétravail qui a été poussée à l'extrême, que l'on va conserver dans les usages. Et effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent se poser. Il y a des exemples. Je voyais Euroméditerranée, qui est l'aménageur de la ville de Marseille, qui concevait d'ores et déjà des parkings en périphérie de la ville, mais qui pouvaient être réversible potentiellement en bureau et demain en logement.
Des parkings en bureau?
Oui, ils sont obligés parce qu'ils font quelques étages. Aujourd'hui, on en a besoin. Est-ce que demain, il y aura autant de voitures? Est-ce que demain, on aura autant besoin de places de parking? C'est des choses sur lesquelles ils réfléchissent. Mais du coup, moi, je voulais poser la question à Béatrice de savoir des projets concrets, en fait. Parce que on parle réversibilité, on parle évolutivité. C'est déjà deux choses différentes et qui sont tout aussi essentielles l'une que l'autre. quand on rentre dans un logement ou quand on achète un logement, de pouvoir s'y projeter avec toutes les évolutions de la vie, c'est une chose. La réversibilité est encore un autre point. Et je pense que Quartus, en tous les cas, et Béatrice ont beaucoup réfléchi sur ces parties-là. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir concrètement avoir quelques exemples pour nos auditeurs.
Oui, en effet. Alors, vous le disiez, Jeanne, il y a peut-être deux définitions qu'on peut un peu préciser aujourd'hui. On parle d'évolutivité d'un côté, et peut-être que là, c'est plutôt une forme d'évolution, mais sans changement d'usage. Mmh. Et puis, il y a la réversibilité, où il y a un changement de destination ou d'usage. Et donc, ça amène à des méthodes différentes. Chez Quartus, on travaille en particulier l'évolutivité au sein de la production résidentielle et dans nos actes de commercialisation, ça se traduit comme ça. On est très attaché à pouvoir permettre à nos clients de travailler et de s'approprier le logement dans lequel ils vont vivre et se permettre de l'approprier au fil de l'évolution de la sphère familiale. Donc on va travailler les plans, les regroupements aussi dans la structure de nos plans sur les regroupements de logements pour permettre de mixer deux petits logements pour en faire un grand. Puis il y a la modularité à l'intérieur du logement. Quelles sont les évolutions qu'on peut faire grâce à une pièce en plus qui devient une pièce de télétravail, qui devient une pièce d'enfant demain, ou un système de cloison mobile aussi pour travailler cette élasticité qui est parfois nécessaire dans les logements.
Oui, et puis en plus, c'est aussi des cycles de vie, bien évidemment.
Exactement.
Si on habite très longtemps dans son logement, on sait qu'on change en moyenne tous les 7 ans, on déménage, mais finalement si on peut moduler comme ça son habitat, ça pourrait être encore mieux, ça pourrait être aussi une solution.
Et au gré des besoins de la vie, c'est vraiment le constat que d'ailleurs amène la crise sanitaire, c'est comment on s'adapte et comment le logement peut s'adapter à des besoins au plus près des usagers. Et puis il y a tout le travail qu'on va faire avec nos clients, donc de manière concrète, sur cette capacité à s'approprier les logements. Donc soit dans la personnalisation de nos logements. Et donc là, c'est vrai que l'outil digital est un outil précieux dans... nous, on travaille la configuration de ces logements avec un configurateur 3D qui permet de personnaliser, de proposer différents scénarios d'aménagement. Et puis, pour aller plus loin, on travaille aussi une démarche commerciale de co-création où on recrute des clients habitants très en amont de la commercialisation habituelle. Et on travaille avec eux la modulation des plans avec des architectes, une équipe commerciale formée, des outils numériques qui viennent au service de cette co-création pour coller au plus près des besoins et même, pour aller plus loin, pour créer une communauté d'habitants qui viennent permettre la greffe dans la ville qui est nécessaire quand ils viennent.
Ça veut dire, mais très de sens, que sur le jour où le bâtiment est livré, tout le monde aura co-créé en fait son habitat, donc l'immeuble sera complètement différent d'un étage à l'autre, d'un appartement à l'autre, alors qu'aujourd'hui la promotion standard, c'est quand même justement cette standardisation. Là, on aura quelque chose d'à la carte qui peut être fait grâce au digital.
En effet, je dirais que le principe, c'est en effet les projets à la carte, en tout cas sur mesure et très contextualisé, et en même temps, il y a des fondamentaux qui vont être tenus par des experts, les architectes, le promoteur lui-même. Et c'est vraiment des ateliers collaboratifs qui permettent de circonscrire à la fois les évolutions possibles et puis coller à la demande. Donc ça, c'est une vraie démarche que l'on a initiée, que l'on a mise en place sur deux projets que je qualifierais de pionniers ou en tout cas de démonstrateurs sur des petites opérations qui font 10 logements, une à Floirac, une à Saint-Priest dans le Rhône-Alpes, où on a essayé d'éprouver cette démarche-là. Et aujourd'hui, on la développe sur les plus grands projets que nous concevons avec des logements qui sont peut-être, enfin des échelles qui sont peut-être de l'ordre de plutôt une centaine de logements. Et on prévoit systématiquement un immeuble d'une vingtaine de logements sur lesquels on peut travailler cette co-création, encore une fois, pour que la greffe vie de quartier puisse être menée.
Et le retour des bêta-testeurs, on va dire, justement, ceux qui sont associés à cette innovation, quel est-il ?
Alors, le retour est extrêmement positif et ça nous permet en plus, nous, de grandir sur un savoir-faire qui est intégré à l'équipe de Quartus. Donc, le retour d'expérience porte à la fois sur les demandes récurrentes qui viennent, donc qui nous permettent aussi un peu d'anticiper ce qui peut être attendu et donc les différents scénarios qu'on peut travailler avec les usagers, et puis d'ajuster nos outils numériques, la manière dont on va recruter ces fameux habitants, puisqu'il faut pré-commercialiser finalement beaucoup plus tôt que la pratique habituelle. Donc on est même là sur un an avant les travaux, même bien avant, un peu avant le permis de construire. Et donc voilà, tous ces retours d'expérience-là sont vraiment précieux pour nous pour améliorer notre démarche de co-création.
Mais alors, est-ce que ça coûte plus cher ?
Alors,
il y a
deux formes de coûts et vous avez tout à fait raison. Il y a à la fois la compétence intégrée qui fait qu'on a maintenant des équipes commerciales qui sont formées et qui finalement ne génèrent pas de coûts supplémentaires. Il y a en revanche un temps supplémentaire de travail pour nos architectes pour mettre en place ces ateliers collaboratifs. À l'échelle d'un logement, c'est assez, et même d'une opération, c'est plutôt epsilon. Il n'empêche que c'est une compétence qui a nécessité un peu de travail de développement et de recherche et qui maintenant peut être pleinement intégrée.
Et sur la construction, j'imagine, parce qu'en fait, la standardisation permet quand même une économie de coût. Quand on est dans de l'hyper-personnalisation, on arrive quand même à devoir intégrer des choses qui peuvent coûter plus cher.
Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on s'attache aujourd'hui à le développer sur des plus grandes opérations, puisque les péréquations permettent aussi de travailler ce genre de produit. Et puis, je reviens à votre question de départ. Il y a un deuxième volet dans la réversibilité, c'est celle du changement d'usage. Et là, on va un cran plus loin. C'est comment on peut travailler des procédés constructifs et des caractéristiques architecturales d'un bâtiment pour permettre un changement de destination dans la vie et dans la vie de long terme des bâtiments. Et c'est vrai que c'est un cadre que certains de nos pairs déjà aussi essayent d'explorer. Les caractéristiques architecturales, on est en train aussi de travailler sur ces fondamentaux qui permettent la réversibilité. On développe depuis 2021 l'ensemble de nos projets sur les secteurs qui le permettent et on pourra y revenir dans des marchés qui font sens. On travaille ces différentes possibilités et le premier projet sur lequel on le met en œuvre est à Nantes, sur l'île de Nantes, dans la Halle Bergeron, qui est un projet de 12 000 m² où on développe une offre de tertiaire qui fait à peu près 8 000 m², une offre résidentielle d'activité, de commerce de la même proportion. Et on travaille ces fondamentaux dont je parlais, la hauteur sous plafond.
Alors un mot justement sur ces anciennes halles industrielles, Alstom bien connu. Là effectivement on peut imaginer des énormes bâtiments, hauteur sous plafond, épaisseur aussi des murs. Il y a un bâti, un construit à réaménager finalement.
Alors il y a encore là un nouvel axe que vous introduisez Fabrice, qui est celui de la transformation.
Et, oui.
Et c'est vrai que la transformation elle n'est pas possible partout et c'est pour ça que je vous parlais des fondamentaux de la boîte et de l'enveloppe que l'on construit. Les fondamentaux et la difficulté première de la réversibilité, c'est la difficulté technique et le fait de trouver le meilleur compromis sur différentes normes réglementaires techniques qui ne sont pas les mêmes en logement, en tertiaire et autres activités. Et certains actifs ne permettent pas cette réversibilité-là. Et donc, dans ces cas-là, on va s'attacher au réemploi, au recyclage des matériaux dans une logique d'une construction bas carbone. Donc quand on ne peut pas, on va chercher à travailler réversible et à construire neuf en réversible. Et c'est là qu'on va travailler d'autres fondamentaux, les hauteurs sous plafond, les plateaux libres sans refend, qui permettent cette évolution interne. Et puis je passe d'autres critères techniques. Mais le travail fondamental est là, c'est les compromis techniques qui nous permettent de concilier plusieurs usages de manière pérenne.
On peut se poser la question aussi, quels sont les freins finalement au développement de ces projets, on imagine que du côté du PLU, des autorisations juridiques, peut-être des contraintes de participation à la ZAC, fiscalité, etc. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui est le plus compliqué finalement quand on se lance dans ce type de projet ?
Oui, alors on a évoqué un premier frein qui est le frein technique, mais sur lequel on essaye d'apporter et de déterminer les caractéristiques principales. Et puis les freins majeurs restent des freins juridiques et réglementaires. On a déjà la réglementation d'urbanisme. Le premier frein est le PLU, qui doit permettre le changement de destination et qui est décidé par des acteurs et des décideurs publics. Je dirais que dans les freins réglementaires, il y a les réglementations périphériques à cette réglementation urbaine, selon le lieu. Si je prends l'Île-de-France, la taxe pour création de bureaux, les agréments bureaux constituent aussi un frein, en tout cas un levier de discussion nécessaire avec les autres parties prenantes de la fabrique urbaine. Donc il y a de vrais enjeux fiscaux. Et puis il y a aussi d'autres réglementations que j'évoquerai pas, mais environnementales, le PPRI, la pollution. puisqu'on n'a pas les mêmes seuils de pollution si on fait du logement ou si on n'en fait pas. Donc on voit qu'on a là voilà, un socle réglementaire qui pose quelques difficultés. Le plus important étant celui des autorisations administratives et des permis de construire, puisqu'il faut changer de destination. Pour changer de destination, il faut une nouvelle autorisation d'urbanisme. Il y a des avancées sur certains périmètres, hein, les permis d'innover.
Oui,
mais en effet, la grande difficulté réside dans le droit urbain pour créer et peut-être généraliser ou systématiser une approche de la réversibilité.
Et ce permis d'innover, il permet véritablement où il est contraint à certaines zones. Et aujourd'hui, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de pouvoir l'élargir.
Exactement, Jeanne. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel nous, on essaye de plaider, en tout cas. On se dit que, évidemment, il ne convient pas de généraliser la démarche de réversibilité sur tout le territoire, parce qu'il y a des marchés qui ne s'y prêtent pas, ça dépend de la localisation. Pour autant, si je prenais l'exemple de l'Île-de-France, ça paraît une nécessité. Dans des zones denses où le foncier est rare et où les marchés tertiaires et résidentiels commencent à s'aligner, avec aussi des acteurs de l'investissement qui cherchent à diversifier leur portefeuille et leur patrimoine et leurs actifs. En effet, on pourrait s'interroger sur la nécessité d'étendre le permis d'innover aujourd'hui, permis par la loi Elan, et en effet circonscrit à des périmètres précis, hein, que sont les OIN, les grandes opérations d'urbanisme, les JO. Nous pensons véritablement qu'il faut continuer à pousser l'idée du permis double détente et permettre l'immeuble neutre de manière plus large.
Bien sûr, on sait aussi que les investisseurs ont cette volonté de diversifier, vous l'avez dit, de passer du tout tertiaire au panachage avec du résidentiel, et ça évidemment ça va pousser, d'autant que s'ils savent que leur immeuble demain va faire logement, bureau, bureau-logement, dans une projection à 30, 40, 50 ans pour un investisseur, c'est plutôt intéressant. Dans le quart d'heure de l'INO, on aime bien parler digital, bien évidemment. Comment le digital vous permet d'anticiper tout ça? On parle notamment du BIM, ce Building Modeling. Comment vous l'intégrez aujourd'hui?
Alors, le BIM fait presque partie maintenant des outils de conception très en amont. C'est un outil extrêmement précieux dans la durée de vie du bâtiment. Hein. Tout l'intérêt du BIM, c'était aussi dans la gestion d'un patrimoine immobilier. Dans la conception, le BIM est intégré. Il favorise bien évidemment la maîtrise de l'évolution du bâti, mais on l'a évoqué, la maîtrise des autres outils de la réversibilité repose presque sur une technicité et un jeu d'acteurs qui reste encore.
Donc on peut dire que Quartus est 100% BIM aujourd'hui, parce qu'il y a très peu de promoteurs qui peuvent s'enorgueillir de cette partie-là.
Bientôt, Jeanne, bientôt.
Fantastique.
D'autres innovations justement dans le digital, à part ce BIM, il y a d'autres choses que vous développez, des projections, de l'intelligence artificielle, je ne sais
on
pas.
On en parlait en effet, dans la gestion la de la data à travers le BIM et pour nos investisseurs futurs d'ailleurs. On en a parlé sur la commercialisation et cette manière voilà, d'aborder l'évolutivité des logements et la prise en compte du besoin des usagers. On travaille aussi dans nos sujets de prospective, puisqu'on essaye d'être un peu à l'écoute des tendances. On s'appuie sur différents supports et différents acteurs comme Made in Vote, enfin voilà, pour essayer d'entendre un peu les tendances des prosumeurs pour anticiper dans notre production les évolutions sociétales, c'est certain.
Une question plus générale, est-ce qu'il y a eu un coup d'accélérateur ces dernières années? On a l'impression que c'est des sujets qu'on n'abordait pas tellement finalement, il y a encore, j'ai l'impression, avant la pandémie. Est-ce que ça s'accélère ou c'est une impression où vraiment vous sentez voilà, qu'il y a un engouement en ce moment?
Alors, je pense qu'il y a une vraie évolution, une vraie prise de conscience. La prise de conscience des investisseurs propriétaires de patrimoine, la prise de conscience des acteurs et décideurs publics, la prise de conscience de tous les acteurs de la production, de la fabrique urbaine. L'accélérateur, il vient d'une part de cette appréhension de la technicité qui est nécessaire à l'évolution, enfin à la réversibilité, et puis de cette chaîne d'acteurs qui travaillent les différents outils. On a parlé du permis d'innover, il y a la loi climat et résilience aussi qui va permettre de travailler et qui va même demander de travailler des dossiers de réversibilité et de mutation du bâti et de les anticiper à l'instar des études d'impact. Donc on voit que tous les acteurs de la chaîne, par bribes et par jalons, finalement, essayent d'avancer dans le sens de la réversibilité et de la construction durable. Il y a une prise de conscience, je crois, globale, en effet.
Jeanne Massas, on arrive bientôt au terme de l'émission. Et oui, ça file, ça défile. C'est vrai que c'est intéressant, tout ce dont tu as parlé, donc cette réversibilité, bien évidemment, ces projets, c'est assez enthousiasmant même. Qu'est-ce que ça évoque pour les acteurs de la French PropTech qui sont encoussés dans ce mouvement également?
Ben oui, parce que à tous les niveaux, on parle de processus constructif, on parle de. Donc l'innovation, c'est pas que l'innovation du virtuel ou du digital. Dans les usages et dans tout le procédé de fabrication de la ville, on intègre de l'innovation. Donc c'est absolument passionnant pour une grosse majorité des adhérents de la French PropTech qui portent chacun d'entre eux des innovations. On parlait de cloisons amovibles, on parlait de tout ça, ça a été porté, mais de nouveaux bétons, des choses qui doivent pouvoir permettre de pouvoir avancer sur des projets de réversibilité. Et puis de l'autre côté, oui, bien sûr, c'est aussi la projection des usagers, donc de pouvoir apporter de plus en plus d'informations de plus en plus tôt. Quand on veut faire de la co-conception, il faut qu'on puisse projeter les gens. Donc ça, c'est des choses importantes. Et puis l'exploitation de la donnée. C'est qu'aujourd'hui, on a une donnée de la ville qui est extrêmement riche et qui permet quelque part de projeter certains usages, que ce soit dans des flux, que ce soit sur des besoins évolutifs en termes d'infrastructures publiques, parce que la ville, le bureau, le logement, mais c'est aussi toute l'infrastructure publique qui doit aller avec et dans laquelle s'investissent également les promoteurs, parce qu'ils ont ils portent l'ensemble du projet urbain, en fait.
Et cette démarche, ce sera le mot de la fin, Béatrice Dessin, elle est bien sûr accompagnée, j'imagine que les acteurs sont enthousiastes quand vous proposez de tels projets qui sont très très innovants pour le coup.
Il y a encore un peu de pédagogie à faire, et on essaye justement nous de fédérer les différents acteurs qui nous entourent, nos différents partenaires, pour d'abord expliquer le bien fondé, les projeter avec nous sur le long terme, et puis répondre aussi aux besoins immédiats des populations, de la ville et de leurs décideurs.
Et oui, toujours la résistance, bien évidemment, au changement, des freins. Mais je suis sûr que vous saurez les dépasser. En tout cas, on l'a bien compris, réversibilité et évolutivité, ce n'est plus une option. C'est en marche et c'est déjà bien réel, que ce soit à Nantes, à Bordeaux ou à Saint-Priest. C'est bien ça, à Florac. Merci, Béatrice Dessin. Je rappelle que vous êtes directrice générale ensemblier urbain chez Quartus. Merci, Jeanne Massa. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro du quart d'heure de l'INO.
Le quart d'heure de l'INO, une émission en partenariat avec Habitéo, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.